parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alors Ben, si tu veux mettre le premier diapo, s'il te plaît. Et je vais vous parler de la belle contradiction de la crainte. Qui, ici ce matin, dans votre entourage, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ah oui, mais la Bible est remplie de contradictions, il y a les choses qui... voilà, là c'est marqué là et là c'est marqué l'inverse. » Moi j'ai entendu ça assez souvent. Et la crainte de Dieu, c'est un sujet où on voit ce même, comment dire ça, cette même opposition dans la Bible. Parce que la Bible parle beaucoup de la crainte de Dieu. Et on le voit dans l'Ancien Testament et on le voit dans le Nouveau Testament. Et donc on va déballer un peu ça ce matin. Et j'espère que, à la fin de cette matinée qu'on va passer ensemble, que tout le monde aura compris que c'est super important qu'on saisisse ce que la Bible dit sur la crainte de Dieu pour nous, pour chacun, pour chacune ici. Parce que c'est la seule façon de vivre comme Dieu le veut. C'est la seule manière de vivre. Et donc on va commencer avec le psaume 112. Et le psaume 112, c'est la première fois qu'on voit cette super contradiction. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Et puis on saute quelques versets parce qu'il y a beaucoup d'autres bénédictions entre deux. Et puis on arrive à plein d'assurance, il est sans crainte. Donc heureux l'homme, la femme, qui craint l'Éternel, il est sans crainte. Alors les savants parmi vous, parce que je sais qu'il y en a quand même, les gens qui cherchent vont dire « Ah, mais c'est parce que dans la langue originelle, il y a plusieurs mots pour la crainte et c'est pas le même mot. » Vous savez quoi? Non. C'est le même mot. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de la crainte. Donc avec la crainte de Dieu, on n'a aucune crainte. Ça va? L'appétit est attisé pour voir où on va aller? Donc il faut qu'on parle de la crainte pour bien comprendre ce que c'est et surtout ce que ça signifie, la crainte de Dieu. La crainte, c'est quelque chose qui est défini par les psychologues comme quelque chose de positif en fait. C'est une réaction protectrice. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est la reconnaissance qu'il y a un danger potentiel et que si on ne réagit pas correctement, on ne va pas survivre. À la base, c'est ça. C'est pour ça qu'on a la crainte. C'est pour nous protéger. Et le problème aujourd'hui avec la crainte, et on le voit beaucoup dans la société, ce n'est pas que la crainte est présente dans notre vie, mais c'est quand nous avons tendance à craindre les choses qu'on ne doit pas craindre, mais on ne craint pas suffisamment celui qu'on doit craindre pour être protégé de toutes les autres craintes. Voilà, ça va, c'est compliqué, mais vous avez compris, je pense. Et ce verset en psaume 12 nous indique qu'il y a une crainte qui est nécessaire, et puis le reste, c'est à bannir. D'accord? Mais il faut qu'on ait cette première crainte. Et je veux vous donner quelques exemples ce matin pour montrer un peu à quoi ça ressemble dans la vie de quelqu'un, de craindre Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à envisager, peut-être. Donc, on va regarder quelques exemples concrets. Et on va commencer vers le début de la Bible, en Genèse, avec Abraham. C'est quelqu'un qui a su craindre Dieu comme il fallait. Et j'imagine, en général... vous savez, vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham. Et il y a à peu près 4000 ans. Donc on peut dire, oh, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et pourtant, on trouve des choses qui nous touchent aujourd'hui. Et Dieu vient de promettre à Abraham qu'il sera le père d'un peuple. Et ce peuple aura une relation particulière avec Dieu. Et non seulement ça, mais ce peuple va être le chemin pour tout le monde d'avoir une relation avec Dieu. Donc c'est une belle, belle, belle promesse. Mais pour devenir le père d'un peuple, bon, il faut déjà commencer en, être le père d'un enfant. C'est difficile d'aller plus loin sans le premier. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas chez Abraham et Sarah. Et c'était compliqué pour Abraham et Sarah. Et on a entendu assez récemment l'histoire. Et je vais pas le répéter aujourd'hui. Mais Dieu a fait une promesse. Et après qu'Abraham s'est créé beaucoup de complications, parce qu'il a, voilà, il y a des choses qui se sont pas passées comme il fallait, parce qu'Abraham a eu du mal à bien saisir la promesse. Mais le fils promis, Isaac, il est né après quelques années. Et il grandit. Et puis, en chapitre 22 de Genèse, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac comme acte d'obéissance, comme acte de louange. Alors, sachez que cette demande, à l'époque, c'était pas aussi choquant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, bah, il faut sacrifier un enfant. Bah, je pense pas que Chanel, Alex, soit trop pour. Mais à l'époque, c'était le sacrifice humain, bah, il y avait beaucoup de religions païennes où ça faisait partie de la manière de vivre. Donc c'était pas choquant, mais en même temps, Dieu n'avait jamais demandé ça auparavant. Dieu n'avait jamais demandé un sacrifice d'un enfant ou autre avant. Et la chose qui est le plus dure pour Abraham, peut-être dans tout ça, c'est que ce fils est censé être le début de l'accomplissement de tout le reste. Sans ce fils-là, bah, on va où avec cette promesse de ce que Dieu va faire à l'avenir à travers son peuple et pour le monde en entier. Et la Bible ne nous dit pas ce qu'Abraham pensait. Tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est ce qu'il a fait. Et on lit dans la Bible qu'il s'est levé, il est parti avec son fils, ils avaient tout préparé pour le sacrifice. Et Abraham, il est sur le point de tuer son enfant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'est fort quand même. Il est sur le point de tuer son enfant. Et puis, un ange apparaît. Et lui dit quelque chose de très intéressant par rapport à ce que je veux vous dire ce matin. Et donc, Ben, si tu peux afficher, s'il te plaît. Et l'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal, car maintenant... je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Dieu voulait savoir ce qui était dans le cœur d'Abraham. Mais en fait, Dieu savait ce qui était dans le cœur d'Abraham, mais Dieu voulait qu'Abraham sache ce qui était dans le cœur d'Abraham. Tu es prêt à me suivre jusqu'où? Tu es prêt à aller jusqu'où pour moi? Parce que Dieu, il savait déjà. Mais il fallait qu'Abraham se trouve dans une situation où c'était « Est-ce que je crains Dieu suffisamment pour faire ce qu'il me demande de faire ?» Et ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est qu'Abraham a su dire oui à Dieu. Et quel rapport avec aujourd'hui, alors? Ça signifie que nous devons tous être prêts à sacrifier un membre de la famille? J'espère que vous savez que la réponse est non. On est plus dans le même enjeu là. Mais Dieu veut savoir que nous le craignons. Il veut savoir et il nous met à l'épreuve parfois pour que nous sachions ce que nous avons dans le cœur par rapport à Dieu. Dieu sait si on a de la crainte pour lui ou pas. Mais parfois, nous, on a besoin que ça soit confirmé dans notre cœur. Est-ce que je suis où dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je le crains? Et je veux vous raconter un épisode peu glorieux, on va dire, de ma vie passée. Et c'est le moment où j'ai connu la crainte de Dieu pour la première fois. Et j'avais 10 ans. Et j'étais avec quelques amis en ville. Et on traînait un peu, comme on peut traîner quand on a 10 ans et rien à faire, et il fait beau. Et quelqu'un dans notre petit groupe a eu la bonne idée de voler des pétards. Et ce n'était pas moi qui a eu cette bonne idée, mais j'étais avec ses amis. Et donc, une par une, parce qu'on était tous des filles, on passe dans le magasin et on vole chacun un paquet de pétards. Alors, je veux souligner ici, et ici, c'est le papier pas très glorieux, franchement. Ce n'est pas un témoignage de ma vie avant Jésus, et puis ma vie une fois que je suis sauvée. Non, à l'époque, je connaissais Dieu, j'étais baptisée, j'étais remplie du Saint-Esprit, je n'avais aucune excuse. Ce n'est pas oui, dans ma jeunesse où j'étais tout... Non, je n'étais pas perdue à l'époque. Je connaissais bien Dieu. Et j'ai déjà partagé quelques éléments sur ma vie à peu près à cet âge-là. Mais je suis dans une situation où, voilà, maintenant je suis voleuse de pétards. Et je passe par le magasin, je sors du magasin. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui tombe sur moi. Quelque chose qui tombe sur moi. Et j'ai une chose qui me remplit la tête. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Et c'était pas la culpabilité. C'était même pas la honte. C'était la crainte. Et c'était une vraie crainte. Et je me rends compte dans ce moment que pendant tout mon parcours dans le magasin, Dieu regardait chaque pas. Et il m'avait vu quand j'avais pris le paquet de pétards. Il avait vu quand j'ai mis ça, voilà, un peu secrètement dans ma poche. Il m'avait vu quand j'avais franchi la porte de la sortie. Et Dieu l'a vu et il n'était pas content. Il n'était pas content. Et c'était quelque chose qui pesait sur moi. Je peux même pas expliquer. C'était comme un poids que quelqu'un m'avait boum balancé comme ça. Et je sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux. Il y a un moment où il y a l'œil brûlant. Et c'est l'œil brûlant qui transperce tout, qui voit tout. On peut pas s'échapper à ça. Et c'était comme ça. J'avais l'impression que le regard de Dieu sur moi, c'était comme ça. Et j'ai jamais ressenti quelque chose pareil. Et ensuite, bien sûr, bon, là, il y a la culpabilité et tout qui commence, parce que maintenant, oh, crainte de Dieu, je suis face à mon péché, qu'est-ce que je vais faire? Bon, heureusement que je suis bonne chrétienne, je connais ma Bible, donc je sais que Jésus, il est mort pour mes péchés, donc je peux demander pardon, il va me pardonner, magnifique, je ne ferai plus jamais ça. Et voilà, c'est réglé. Alors pourquoi avoir participé au vol? J'aurais pu refuser. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Et Ben, si tu peux mettre le prochain diapo, s'il te plaît. Proverbe 29 nous dit que la peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. Et à ce moment-là, j'avais plus la crainte des autres filles de 10 ans que la crainte de Dieu. Et cette crainte de la réaction des autres, si je disais non, je voulais pas les agacer, je voulais qu'on reste en bande d'amis comme ça. Là, cette crainte-là, c'était plus fort que la crainte de Dieu. Et on peut facilement le comprendre, je pense qu'on a tous été dans des situations où on a peur de ce qui va se passer si on fait ceci, cela, est-ce que ça va avoir une réaction des amis, de la famille, etc. Mais c'est triste quand même d'avoir plus un respect et une crainte envers les petites copines de l'école que de Dieu. Et quand je le dis comme ça, ça a l'air tellement bête, mais c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Mais le problème, c'est que l'histoire ne termine pas là. Parce que maintenant... Voilà, il y a la crainte de Dieu sur moi, je suis, oh Dieu, plus jamais, plus jamais. Et puis Dieu me dit quelque chose, il dit, ok, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aller dans ce magasin et tu vas remettre le paquet que tu as volé et tu vas dire à tes copines que tu n'aurais pas dû le faire et que tu le regrettes. Et bah, tu peux imaginer, si j'ai eu du mal à tenir bon avant le coup... Faire ça, c'était encore plus dur. Mais vous savez, j'ai pas hésité un instant. Dès que j'avais entendu ça, je savais, Dieu, ce que tu dis, ça doit passer devant tout. Et donc, je suis allée dans le magasin, j'ai remis le paquet de pétards que j'avais volé, et je sors, et je dis à mes copines, j'aurais pas dû le faire, je le regrette et je ne ferai plus jamais ça. Et comme j'avais prévu, mes copines se moquaient de moi à fond, mais c'était horrible. Mais vous savez quoi? Je m'en fichais complètement. Je m'en fichais complètement parce qu'il y avait quelque chose en moi qui était tellement soulagé d'avoir fait la volonté de Dieu qu'en fait, la réaction des autres, ça ne me touchait plus. Ça ne me touchait plus. Et ce que j'ai remarqué ce jour-là, c'est que Dieu a eu la gentillesse de me montrer ce que ça faisait de craindre, ce que ça a été de craindre Dieu dans une situation où j'ai eu la possibilité de rectifier ce que j'avais fait. Parce que parfois, on n'a pas toujours la possibilité. Quand on va contre la volonté de Dieu, on n'a pas toujours la possibilité de remettre les choses comme j'ai pu remettre ce paquet de pétards. Et Dieu, il a eu la gentillesse de me montrer ce que c'était. Ce qui veut dire que plus tard dans ma vie, quand j'ai rencontré des situations où j'étais face à un choix, j'avais déjà goûté à la crainte de Dieu et je n'avais aucune envie de revivre ce que j'avais vécu à ce moment-là. Et je pense que Dieu m'a sauvée de pas mal de choses à cause de cette expérience-là quand j'avais eu 10 ans. Parce que, vous savez tous, la vie nous présente avec beaucoup de choix. Et il y a les choix qui sont bons, il y a les choix qui sont mauvais. Et plusieurs fois, et parfois, la crainte de Dieu, c'était la seule chose qui m'empêchait. Parce que le vouloir était là, mais il y avait toujours dans ma tête cette « est-ce que tu veux revivre ça ?» Et la réponse, c'est non. Non, je ne veux pas. Et donc, pour nous, la crainte de Dieu, c'est un garde-fou. En partie, c'est beaucoup d'autres choses, mais c'est un garde-fou. C'est attention, attention, ne tombe pas. Alors, Moïse, c'est quelqu'un, donc on est un peu plus tard, on va aller un peu plus loin. Moïse avait bien compris la crainte de Dieu. Et c'est avec lui qu'on va aller un peu plus loin. On est dans le livre d'Exode, donc l'histoire a passé. Nous nous trouvons en compagnie du peuple d'Israël qui vient de quitter l'esclavage de l'Égypte. Donc, ils sont dans le désert. Le peuple se trouve dans le désert. Et ce n'est pas l'intermédiaire de Moïse que Dieu, maintenant, il va faire alliance avec son peuple. Et en Exode 19, nous lisons que le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée, parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Alors, vous imaginez un peu ce que ça donne. Parfois, on lit ça et on n'imagine pas. Alors, allez, on va faire travailler notre imagination. D'accord? Il y a du feu, il y a la fumée. C'est comme une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Okay? Donc il y a tonnerre, il y a feu, il y a flamme, et ça tremble comme ça. Je ne sais pas ce que vous, dans cette situation, vous êtes. Ouais, c'est cool. C'est pas ce que le peuple d'Israël a vécu à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, il annonce l'essentiel de sa loi. Donc, ce qu'aujourd'hui on appelle les 10 commandements, c'est à ce moment-là que Dieu les annonce. Et voilà la réaction du peuple. Si tu peux faire la suivante, s'il te plaît. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Là, il y a la peur, c'est bien. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Donc, n'ayez pas peur, il faut simplement que vous ayez peur. C'est ce qu'il est en train de dire là. N'ayez pas peur du tonnerre, du feu, de machin, machin, machin. Il suffit simplement que vous ayez peur, si vous voulez, de Dieu. Ne soyez pas distrait par le reste. Dieu voulait voir s'il pouvait vous impressionner. On voit qu'il vous a impressionné. Mais restez sur l'essentiel. C'est Dieu, c'est ce qu'il a annoncé. C'est ses commandements. Dieu veut que vous ayez un peur de lui pour, et ce n'est pas juste parce que Dieu a envie de s'imposer en grand maître, mais il dit afin de ne pas pécher. Il y a un objectif avec la crainte de Dieu. Et c'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est une belle contradiction. C'est placer votre crainte là où il faut et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur. Donc c'est une contradiction, mais ce n'est pas du tout une contradiction quelque part. C'est pour votre bien. C'est pour que vous ne tombiez pas. C'est pour ne pas tomber dans le péché qui va ruiner votre vie. Je ne sais pas qui ici a déjà eu des dégâts dans leur vie à cause des péchés commis. Je sais que on est plusieurs à avoir vécu des choses que Dieu voulait nous épargner ça. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une crainte de Dieu dans notre vie, on n'a pas réagi pour qu'on soit protégé des conséquences de notre péché. Donc Dieu, il a vraiment notre bien à cœur. Il a notre bien à cœur, mais il faut envers lui qu'on ait la bonne attitude. Et donc, si on peut expliquer la crainte de Dieu, c'est la prise de conscience que je vis sous le regard de Dieu. Chaque pas que je prends, souvent lorsqu'on cite le psaume 139, tu sais quand je me lève, quand tu sais quand je me couche, tu sais quand je pars, quand je rentre, et on prend tout juste, ah oui, Dieu, il est bienveillant sur moi, il regarde. Mais il faut savoir que ça marche aussi quand on n'est pas sur son chemin. On vit sous le regard de Dieu. Il sait ce que nous faisons. Il sait où on va. Il sait ce que nous sommes en train de penser. Il sait tout. Il sait tout. Donc, il faut qu'on ait une prise de conscience qu'on vit. On vit sous le regard de Dieu. Rien ne lui est caché. Et la crainte de Dieu, c'est aussi l'impossibilité de lui refuser quoi que ce soit. Si Dieu te dit quelque chose, si Dieu te donne quelque chose à faire, la crainte, tu sais si tu es dans la crainte de Dieu par ta réaction. Est-ce que je suis capable de lui refuser ça ou pas? Et si on est capable de dire non à Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas dans la crainte de Dieu. On n'est pas dans la crainte de Dieu. Pour Abraham, Dieu lui a demandé la chose la plus précieuse qu'il avait. Et Dieu a dit, maintenant je sais que tu es prêt à faire ça, je sais que tu es dans la crainte de moi et de qui je suis. Donc c'est vraiment important. C'est la crainte de Dieu, c'est la reconnaissance lorsque notre Père Céleste nous parle, parce que c'est un Père Céleste qui est rempli d'amour pour nous, et on n'oublie pas ça dans tout ce qu'on dit sur la crainte, on n'oublie pas que Dieu est notre Père. Et c'est la reconnaissance que lorsque notre Père Céleste nous parle, c'est aussi Dieu le Tout-Puissant qui nous parle. C'est celui qui sait tout, qui peut tout, qui tient toutes choses entre ses mains. Ça c'est le Dieu qui nous parle. Et si on peut regarder le prochain, s'il te plaît, Ben. En 1 Pierre, on voit cette idée-là. C'est marqué dans vos prières. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. C'est vrai, c'est notre Père, mais c'est aussi notre juge. C'est notre Père, mais c'est notre juge. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une crainte qui nous bloque comme ça. Et souvent, le monde voit la crainte comme ça, comme quelque chose de très négatif, de très qui va nous empêcher ceci, cela, cela, qui va, voilà, vous pouvez pas vous épanouir si vous êtes dans la crainte. C'est vrai, si on craint ce qu'il faut pas craindre, c'est tout à fait possible qu'on vit comme ça. Mais la crainte de Dieu va nous libérer pour vivre sans ces poids de, ces fardeaux de péché que Dieu veut nous épargner. Donc, il faut qu'on les saisisse. Donc, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. C'est quoi le prix? Si on avait été, on l'a chanté ce matin. C'est quoi le prix qui a été payé pour qu'on soit libérés? C'est la croix, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Donc Dieu est notre Père, oui, mais Dieu n'est pas domestiqué, si je peux le dire comme ça. Ce n'est pas notre petit papa à qui on court à droite, à gauche, juste quand, oui, j'ai besoin d'un truc, et c'est lui qui me donne mon argent de poche, et donc, voilà, je vais vers mon papa céleste, et il va arranger tout ça. On a une relation avec Dieu qui est une relation de père-enfant, oui, mais c'est aussi une relation de créateur et création, et c'est aussi une relation de Dieu tout-puissant et ses adorateurs. Et c'est ça qu'on a vraiment besoin de garder, cet équilibre. Il n'est pas possible d'aimer Dieu comme il faut si on ne le craint pas. Parce que si on ne le craint pas, ça veut dire qu'on n'a pas compris vraiment qui il est. Donc, les deux choses sont essentielles dans notre marche avec Dieu. Donc Dieu n'est pas domestiqué. Alors dans le Nouveau Testament, il y a Paul. Paul, il a toujours beaucoup de choses à dire sur tout. Mais il nous donne, il fait référence à ce que les Israélites ont vécu. Et il nous donne un avertissement. Et je veux juste souligner ici que ce passage qu'on va regarder, c'est un passage qui est dirigé à l'Église, à ceux qui connaissent Dieu. Parce que souvent, on le lit en disant, oh oui, ça c'est pour les non-croyants. Mais dans ce passage qu'on va regarder, c'est en Hébreux 10, Paul, il est en train de parler aux personnes qui connaissent Dieu. Et c'est un avertissement, donc il faut que nous, on le prenne au sérieux. Donc c'est Hébreux 10, 26, 30. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc ça c'est nous, nous avons reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Bon, heureusement, on n'est pas là aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Sur la déposition de deux ou trois témoins. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui a déclaré: c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, je vous donne une image de ce que ça fait lorsque nous choisissons délibérément de rester dans le péché, après avoir connu le bonheur de la grâce de Dieu par le sacrifice de Jésus. Imaginez un instant, et c'est bien imaginé. Je suis voleuse. J'étais voleuse. Je ne suis plus voleuse. Je suis voleuse, je suis menteuse. Je suis colérique. Je suis tueuse. Je suis tricheuse. Je suis orgueilleuse. J'ai choisi de me plonger dans le péché sexuel. Je tiens à mon rancune. je refuse de pardonner. Okay? Ce sont les choix que j'ai faits dans ma vie. Et vous pouvez compléter la liste en fonction de vos faiblesses personnelles. Je vous laisse cette liberté. Alors, la Bible me dit que Dieu, il m'a déjà donné tout ce qu'il me faut pour sortir de là. Et moi, j'ai un choix. Je peux dire, d'accord, j'accepte ce que Dieu a fait pour sortir de là, ou je peux choisir délibérément parce que ça me va, parce que j'ai envie, parce que je peux choisir de dire, bon non, je veux me lâcher dans ce domaine-là et je reste. Et je ne vais pas sortir et je ne vais pas lâcher l'amertume que j'ai dans mon cœur parce que ça me va. J'ai connu les personnes comme ça, c'est vrai, on peut rigoler, mais j'ai connu les personnes qui ont refusé de lâcher les choses parce que quelque part, c'était une sorte de non, ça me donne mon identité, je suis, cette amertume, ça fait partie de qui je suis. Et j'ai connu les personnes comme ça et c'est vachement triste. Mais ce qui se passe... Quand je fais ça, quand je refuse d'écouter Dieu, quand je refuse d'accepter la sortie que Jésus m'a donnée, c'est comme si, voilà, vous voyez mon petit aide visuelle, je suis prof, il le faut. Dieu, il m'a donné ça. D'accord? Il dit ça, là-dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour sortir de là où vous êtes. De ce que tu, peu importe ce que tu fais, ça peut être grave à tes yeux ou pas grave, mais quoi qu'il arrive, il y a une sortie. Et donc, je porte ça avec moi. Je suis chrétien. Voilà, ça couvre. Ça couvre. Et puis, j'arrive à une situation où j'ai un choix. Je me place face à du péché dans ma vie. Et j'ai un choix. Alors, je peux dire, Dieu, aide-moi à sortir de là. Pardonne-moi, peut-être je vais retomber, mais j'ai envie de sortir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'abandonner les choses qui ne te plaisent pas, j'ai envie. Et Dieu, il va faire tout ce qu'il faut pour m'aider à avancer là. D'accord? Il ne va pas nous faire tang, 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 t'aurais pas dû. Il est là pour nous prendre avec la compassion parce que c'est un père avec un cœur rempli de compassion et il va nous prendre et il va nous sortir de là et on va avancer et on va grandir et les choses vont être restaurées et c'est magnifique. Et je pense qu'on a peut-être tous vécu un élément de ça dans nos vies. Mais, ce passage dit, que si, après avoir connu la grâce de Dieu, si je fais un choix délibérément de rester dans le péché, donc Dieu, il m'a proposé tout ça et je dis non. Je veux pas. Ce que je suis en train de faire, selon ce passage-là, je prends ça, je fais comme ça, et je fais comme ça. D'accord? Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on choisit délibérément le péché, on est en train de mépriser le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Et là, ça, c'est du mépris. Là, j'écrase par terre ce que Jésus a fait pour moi. Alors, imaginez le cœur du Père. Bah, déjà, Jésus... C'est pas très magnifique pour lui quand on fait ça. Mais imagine ce que Dieu ressent lorsqu'on fait ça. Et si je fais ça, Dieu nous dit, mais où vas-tu chercher maintenant la grâce? Où vas-tu chercher la relation avec moi? Parce que tu as méprisé la seule chose, en fait, qui peut te rapporter une relation avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas chercher? Parce que tu as rejeté la seule chose qui peut faire la différence. Et ce que tu fais devant Dieu quand tu choisis délibérément le péché, avant la sortie qu'il nous donne, c'est je dis, non, le sacrifice de Jésus ne m'intéresse pas. Et vous savez, c'est terrible d'être face à Dieu avec un péché que tu as choisi sans la couverture du sang de Jésus. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être jugé. Et c'est vrai que nous ne parlons pas très souvent du jugement, parce que c'est un peu... On aime bien parler de la grâce, mais il faut savoir qu'il y a la grâce, on a la grâce à cause de ça. Et si on le rejette, ça veut dire que la grâce n'est plus là, parce qu'on a choisi de ne pas l'avoir. S'il y a un avertissement dans ce passage-là, c'est que quand tu es dans le péché, ne laisse pas endurcir ton cœur jusqu'au point où tu n'entends plus l'appel de Dieu pour revenir. Parce que c'est ce qui peut se passer. Si on reste dans quelque chose où Dieu a dit non, 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 il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, le moment arrive où on n'entend plus Dieu qui nous rappelle. Et c'est pour ça que c'est tellement important lorsqu'on tombe dans le péché. Et ça arrive. Je sais très bien, moi, comme vous, j'imagine. Mais il faut qu'on sorte tout de suite. Il ne faut pas qu'on choisisse de délibérément rester quelque part où on choisit l'éloignement de Dieu. Et il y a 2 semaines, 3 semaines, pendant la louange, Fred a apporté, j'allais dire un encouragement, mais en fait c'était un avertissement. Et il a dit qu'il y avait quelques personnes dans la salle qui prenaient Dieu à la légère. Et qu'en fait, qu'il fallait faire attention. Parce qu'on ne prend pas Dieu à la légère. Parce que vous savez, avec Dieu, c'est la vie ou c'est la mort. Et Dieu, il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour la vie. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il a donné tout ce qu'il nous faut pour la vie. Mais la vie, ça passe par le sacrifice de Jésus. Et quelques versets, juste avant ce passage-là, où il y a l'avertissement contre le péché, juste avant, Paul souligne la grâce de Dieu. Tu peux afficher, s'il te plaît? Ah non, après. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Et puis quelques versets plus tard, il est en train de dire que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, son message, c'est le même message que le message de Moïse. C'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On peut venir avec une pleine assurance. Une pleine assurance. On a une liberté. Mais, attention, Dieu veut qu'on ait de la crainte pour lui. Parce que c'est ça qui va nous garder sur le bon chemin, si vous voulez. Et je veux terminer avec juste un passage de ces 2 chapitres plus tard. Si tu peux avancer, s'il te plaît. C'est Paul encore, donc il est dans la même suite de ce qu'il disait tout à l'heure. Et il dit, prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. Combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Notre manière agréable devant Dieu, c'est d'avoir un respect, oui, avoir un amour débordant pour lui, je suis d'accord. Mais il faut aussi avoir ce respect profond pour lui. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Et j'ai juste une dernière question. Parce que le problème lorsqu'on parle de la crainte, c'est que j'ai déjà entendu des personnes qui disent « Mais qu'est-ce que je fais si je ne crains pas Dieu ?» parce qu'on a parlé de la crainte comme une, comme étant une, c'est une émotion. C'est quelque chose qui est en nous, qui, comment créer, si je peux le dire comme ça, la crainte de Dieu? Parce que si on le ressent pas, on le ressent pas. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Et la Bible a trois astuces, ou deux astuces et une réponse de Dieu par rapport à ça. Et j'ai tout mis sur le dernier diapo. Donc, comment susciter la crainte de Dieu dans notre vie? Déjà, en Proverbe 1, c'est un choix. Premier pas, c'est si tu ne sais pas si tu crains Dieu ou pas, première chose, c'est que tu choisis. Tu dis, je veux craindre Dieu. C'est mon choix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu peux apprendre à craindre Dieu. En Deutéronome 31:13, c'est marqué que c'est en lisant la loi. En fait, pour nous, ça fait la Bible. Tu veux savoir comment craindre Dieu? Tu veux susciter la crainte dans votre cœur? Bah, lisez votre Bible. Parce que là, plus vous allez découvrir de Dieu, plus vous allez voir combien il est digne de recevoir notre crainte, notre profond respect. Et c'est à travers la Bible que ça peut être cultivé aussi. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Jérémie 32, 39. Dieu nous accorde un cœur pour le craindre. Et donc, en fait, Dieu, il voit ton choix. Il dit, bah, voilà, un tel a choisi la crainte. Premier pas. Deuxième, il plonge dans sa Bible, elle plonge dans sa Bible pour apprendre comment le faire. Et Dieu, il répond. Il va te donner un cœur de crainte pour lui. Et c'est quelque chose qui va vous nourrir jusqu'à la fin, qui va vous garder sur le bon chemin jusqu'à la fin. Vous allez être face aux choix dans votre vie. Parfois, la crainte de Dieu, c'est la seule chose qui va vous garder d'un choix épouvantable. Parce qu'on ne voit pas toujours les conséquences de ce qu'on fait. Et parfois, c'est la crainte de Dieu, c'est la seule chose qui reste entre toi et une très, très mauvaise décision. Mais si on choisit de vivre sous le regard de Dieu, dans une conscience qu'il est là, qui surveille, qui regarde, qui suit, qu'il est là pour nous soutenir, oui, mais il est aussi là pour dire mauvaise idée, ne fais pas ça. Il va nous accorder un cœur qui va être encore plus en plus attentif à lui et à sa voix. Donc, je veux vraiment vous encourager. Aujourd'hui, si vous savez que vous avez de la crainte de Dieu dans votre cœur, bah, c'est génial. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'avoir la crainte de Dieu dans votre vie, n'attendez pas que ça tombe comme ça. Choisis. Commence à chercher dans ta Bible. Commence à chercher dans ta Bible et sache que Dieu voit ton choix. Il voit tes efforts, il va t'accorder un cœur pour le craindre.